c'est un peu ce sur quoi nous travaillons, hein. Cette question de la servitude de tous, hein, et non pas de la violence de quelques-uns, hein. Donc les prophètes modernes revendiquent donc dans notre évolution technoscientifique en médecine, mais technique en général aussi, eh bien, les prophètes modernes revendiquent un homme nouveau, débarrassé de ses maladies, hein, grâce au progrès technoscientifique. Et on fait en quelque sorte comme si cette cynique définition d'OMS de 1948, je vous donne la définition d'OMS de 1948, que tout le monde, jusqu'à il n'y a pas longtemps, trouvait extraordinaire et qu'on a contribué avec quelques-uns à dénoncer. Donc, pour l'Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être social, physique et mental. Voilà. État de complet bien-être social, physique et mental. Qui connaît ça? Dites-moi. Comment? Complète. Hein? Donc, ce serait un horizon possible, comme si la santé n'était qu'un problème médical, technique et scientifique. Donc, la santé est un problème, comme je vous l'ai dit, d'inégalité. Donc, il conviendrait ici de reprendre les analyses de Jacques Ellul et de ce qu'il appelle analyse de 70, enfin des années 70, hein, 50, voire 70. Il appelle ça le système technicien. Il n'y a pas pour lui de technocratie, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une espèce de pouvoir. Aucun technicien ne prétend diriger la société, mais la technique participe à la bureaucratie. Il considère que chacun participe à tous les niveaux au système technicien. Nous y participons tous, bah, ne serait-ce que dans nos utilisations des nouvelles technologies. Hein. Les jeunes femmes ici connaissent bien tout ça. Eh bien, on est tous consommateurs de ces nouvelles technologies, pris dans ces nouvelles technologies. Dans son ouvrage, donc, Le système technicien, il donne la définition suivante de la technique. Donc, je vous la donne, elle est intéressante hein, par rapport à ce qu'on dit sur l'humain et la technique. La technique serait un ensemble d'êtres inanimés ou exceptionnellement animés, organisés de manière à remplacer l'homme dans l'exécution d'un ensemble d'opérations définies par l'homme. Hein? La technique vient remplacer l'homme. Alors, par exemple, bah, prenez le cas de l'agriculture. Le paysan, chez nous en France en tous les cas, parce qu'il faut savoir que l'agriculture mécanique, vous savez qu'elle existe dans 2% du monde hein, à l'échelle de la Terre. Hein. C'est 2% seulement. Dans la plupart des pays, on utilise des moyens de cultiver la terre il y a très longtemps. Et ils ne sont pas plus malheureux de ce point de vue, hein, in fine. Mais bon, petit à petit, tout ça change. Hein. Alors, de nos jours, c'est l'agriculture. Mais c'est des. Si, enfin, dernièrement, j'ai entendu parler des nouveaux moyens de culture, comment on surveille les agriculteurs par les moyens de géolocalisation, enfin par satellite, hein, donc on arrive à savoir si l'agriculteur fait bien tel qu'on lui demande de cultiver son champ et de la bonne manière, etc. S'il utilise bien tous les pesticides qu'il faut, etc., etc. Donc c'est devenu très technique. Il programme l'arrosage par des mails, etc., etc. Donc quelle est la créativité du paysan tel qu'on pouvait la concevoir il y a 100 ans ou ne serait-ce qu'il y a 50 ans, c'est fini, il est plus libre du tout, il dépend complètement des nouvelles technologies et il n'a pas le choix s'il veut vivre, hein, s'il veut gagner sa croûte parce que sinon on lui enlève son champ, etc. Et il n'a plus tous ses moyens pour produire des produits bien pollués hein, finalement parce que quand on entend ce qui se passe, c'est vraiment incroyable, quoi, hein, la manière dont se pratique l'agriculture de nos jours. Hein, c'est absolument terrible. Bon, je ne vais pas discuter de tout ça parce que je vais perdre le fil de mon propos. Donc, Ellul, là, dans son système technicien, critique les néo-utopistes. Donc, de nouveau, ce petit fil rouge, l'utopie et de l'homme nouveau. les néo-utopistes, qui seraient ce qu'un philosophe comme Dominique Lecourt appelle les technophiles. Il distingue les technophobes, ceux qui veulent revenir, un petit peu comme on le dit en ce moment à propos du nucléaire, revenir à l'âge de la bougie, bon, de manière caricaturale, les technophiles qui croient que la technique va régler tous nos problèmes. Hein, donc vous avez ces deux types de... On peut décrire ces deux types d'individus. Alors lui, Ellul parle des néo-utopistes et lui dit justement qu'il n'y a pas d'autre utopie que technicienne. Donc lui, ce n'est pas pour dire que l'utopie, c'est bien, hein, ce serait plutôt l'inverse. Et que pour lui, eh bien, pour ces néo-utopistes, c'est par ce canal donc de la technique que, eh bien, on espère une nouvelle, un homme nouveau. Hein. Donc l'utopie est, pour ces néo-utopistes, ces technophiles, l'utopie est dans la société technicienne. Rien de plus. Voilà. Et il dit aussi dans cet ouvrage que justement, le facteur produisant la valeur, ce qui va apporter de la valeur dans nos actes, dans tout ce qu'on fait, ce n'est plus le travail humain, mais l'invention scientifique et l'innovation technique. C'est ça qui apporterait de la valeur. Donc vous voyez, de nos jours, à quoi on aboutit? À la souffrance au travail. Hein. Les souffrances au travail, elles se déduisent de toute cette évolution technologique. Hein. C'est-à-dire que, bon, des films de Chaplin hein, sur... voilà. Eh bien, c'était bon, une certaine manière de concevoir qu'il y avait des conditions de travail terribles. Mais de nos jours, il y a peu de travailleurs qui sont épargnés par cette évolution technologique de nos métiers. Hein, si bien que, là je reviens à l'appel des appels, ce qui nous a fait un petit peu réagir, donc, puisque c'est parti du 22 décembre 2008, où l'appel a été lancé, mis sur Internet début 2009, eh bien, c'est justement cette perte du sens des métiers, des métiers. Alors, bon, on avait pris des secteurs, 8 secteurs du domaine public, mais bon, bien sûr, ça ne concerne pas que cela, ça concerne la SNCF, etc., hein, tous les métiers, et les chômeurs aussi, puisque c'est une souffrance aussi de ne pas travailler. Il y a la souffrance aussi de ne pas travailler, de ne plus avoir ce sentiment d'utilité dans la société. Eh bien, vous voyez que si, comme le dit Ellul, le facteur produisant la valeur n'est plus le travail humain, mais l'invention scientifique et l'innovation technique, c'est logique qu'on en soit là, hein, que vous ayez tout ce qu'on décrit à la SNCF, à la Poste, dans tous ces secteurs où eh bien, il s'agit d'aller dans le sens de la productivité et pas dans le sens du métier, de ce qu'est le métier. Donc le métier, eh bien, par exemple, pour un médecin, c'est soigner, hein, c'est pas faire des actes, c'est soigner. Pour un enseignant, c'est bah, éduquer, enseigner, donc amener ses élèves à apprendre, etc., etc. Donc on peut, pour chaque métier, voir comment tout ça est perverti, donc... Et notamment perverti par l'évaluation. Hein, l'évaluation aussi, donc l'appel des appels, on a pas mal travaillé cette question, repris, enfin on l'avait pas mal travaillé avant, notamment certains, dont moi-même avec Roland Gory, on avait beaucoup travaillé cette question de l'évaluation, qui en particulier au niveau de l'université, vous savez que cette évaluation, enfin, vous ne savez peut-être pas, l'évaluation de notre activité, de notre production scientifique, bon, on est censé produire de la science, des connaissances, eh bien, cette production scientifique, il y a 30 ans, 40 ans, l'œuvre d'un professeur à l'université. C'était sa thèse d'État. Il y passait 10 ans, 15 ans. Il faisait, c'était une œuvre, une grosse thèse qui faisait 1000 pages, qu'il avait travaillé. Et de nos jours, ce sont des articles qu'on doit produire, des articles. Alors, bon, pas trop long, hein, bien sûr. Il faut qu'ils soient lus quand ils sont lus, parce que la plupart des articles publiés, sur 1,5 million d'articles publiés par an dans le domaine scientifique, on estime que 20% sont lus. La plupart ne sont pas lus du tout par personne. Donc, on publie des articles et on va évaluer cet article par la revue qui a un impact, un facteur d'impact élevé, c'est-à-dire qui est censé être lu par des autres scientifiques. Donc c'est une forme de popularité scientifique. Et donc, quand on va évaluer la production scientifique des enseignants-chercheurs, eh bien, on va en quelque sorte additionner ces points. Hein. On ne va même pas lire les titres des articles, on en arrive pratiquement là. Bon, j'exagère un peu, je caricature, mais on en est là. Donc cette évaluation, eh bien, caricaturale que j'évoque là, et qui est malheureusement et qui est vraie en plus, hein, eh bien, on la voit dans d'autres domaines où on va évaluer en fonction des chiffres. Vous avez évalué l'activité de votre
Alors.
lieu par des chiffres, mais derrière ces chiffres, on s'en fiche de ce qu'il y a, hein. Donc on va faire... s'intéresser aux chiffres parce que eh bien, les chiffres, même si c'est pas fi si c'est pas s'il n'y a pas de validité dans ces chiffres, hein, c'est-à-dire que moi je peux publier des articles à fort impact, mais personne ne les lit, même c'est bidon, mais ça va être très cité parce que c'est bidon, justement, parce que tout le monde va dire c'est bidon, donc je suis énormément cité, mais on va pas aller voir si le travail. Quelle est la validité de ce travail, la valeur de ce travail, hein, au sens, voilà. Mais c'est commode des chiffres, c'est très commode, on va vite pour évaluer et on en arrive à ces... Donc ce que vous avez là au niveau de l'évaluation dans le domaine universitaire, eh bien, vous pouvez le transposer, l'évaluation à l'école, hein, où on va évaluer... Là, il y a l'évaluation au niveau scolaire des CM1 ou je ne sais plus quelle classe. Eh bien, on va évaluer ce que les élèves peuvent savoir faire, mais en termes de compétences, hein, et pas vraiment de compétences qu'on va chiffrer, et non pas en termes de progrès que l'enfant a pu faire, hein, petit à petit, comment il arrive à acquérir, et ça. L'enseignant sait l'évaluer, ça. Il sait évaluer si ses enfants arrivent à progresser, les enfants qu'il a dans sa classe, ou si, eh bien, il y a des difficultés, il peut se faire aider par des professionnels ou pas. Bon, enfin, je suis loin d'avoir tout abordé, hein. J'ai juste le tiers, la moitié de ce que je... Mais bon, peut-être vous laisser un petit peu... parler, hein, parce que qu'est-ce que je voulais vous dire de tout ça? Peut-être les points importants. Oui, voilà. Hein, oui. Je ne veux pas trop saturer.
Je
Hein.
retiens un petit peu dans tout ce que vous avez dit, effectivement, c'est on est dans une, quel que soit le domaine, le champ d'activité, etc., on est dans un registre de rentabilité économique, ça, c'est ce qu'on peut comprendre, effectivement. Et que pour que cette rentabilité économique, elle soit, ce qu'on dit toujours, c'est de l'argent public, il ne faut qu'elle pas gaspiller. Donc, au regard de ça, il y a des évaluations qui sont faites pour justifier tout ce qui est de l'ordre de l'économie. Donc, par n'importe quel bout on peut prendre, ils ont toujours raison. Dans le sens où le facteur humain, comme on a toujours dit, on n'a pas le temps de s'occuper des malades, on n'a pas le temps de s'occuper des élèves, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est plus la valeur étalon. Hein, donc, on est dans une société qui est un petit peu comme ça. Et donc, moi, ma question par rapport à ce séminaire où j'ai invité différentes personnes de différents domaines, c'était de savoir justement comment, du champ même de leur activité, de votre activité, il y avait des formes de résistance par rapport à ces impératifs économiques, d'une part, et les demandes de ce qu'on a dit, de faire des bilans, etc., pour savoir si c'était rentable, pas rentable, intéressant, pas intéressant. Donc, parce qu'on est près dans une espèce de truc schizophrénique où, effectivement, vous avez renvoyé au mot la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on est tous pris dans une espèce de servitude volontaire par des injonctions économiques. D'une part, il faut faire avec ce qu'il y a, éventuellement mutualiser. Ça, c'est un mot aussi très, très à la mode. Il faut mutualiser, hein, parce que ça fait bien de travailler ensemble. Mais ce n'est pas fait du tout dans cet esprit-là. On voit bien que c'est pour faire des économies drastiques. C'est hein, donc, comme dans la Bible, moi, je ne suis pas très machin, mais c'est bien l'autre qui déchire sa couverture. C'est Pierre-Paul, je ne sais plus quoi. Il déchire la couverture pour que l'autre n'ait pas froid. On est un petit peu comme ça, quoi. Alors, quand on a des couvertures, il y en a partout. Bon, et en même temps, ça fait du boulot de fabriquer d'autres couvertures. Donc on n'est pas du tout dans cette logique. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est vous à l'hôpital, etc., là, vous intervenez. Comment vous arrivez à lutter contre ce... Bah, contre ça, quoi. Comment, quel moyen on a de lutter contre ça, comment ne pas être dans la servitude volontaire? Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là qui se mettent en place actuellement dans le champ où vous intervenez? Des choses concrètes? Alors, parce que l'appel des appels, c'est vrai que c'était
ouais,
assez,
ouais, oui.
Un soubresaut collectif à un moment donné de plein de corps de métiers. Ça va de la recherche et la culture, en passant par l'enseignement, la justice, etc. Bon, dernièrement, on a bien vu les magistrats, comment ils sont quelque part mobilisés hein, entre le champ des compétences des uns et des autres. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, de descendre dans la rue, dire non, attention, etc. Bon, je ne sais pas où ça en est, mais il y a eu quand même des soubresauts de manière collective.
Alors là, enfin, je vais peut-être laisser parler aussi ces dames. Hein. Il n'y a que des dames, hein, en fait.
Je ne sais pas pourquoi.
Oui.
C'est intéressant de savoir les propositions qui peuvent être faites venant de chacun des métiers, parce que quoi, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi des choses avec lesquelles nous, qui travaillons pas mal avec les nouvelles technologies. Moi, j'ai pas forcément le sentiment que ça aille que dans un mauvais sens. Moi, je fais énormément de veille, par exemple, et ça, c'est une ouverture et une liberté, une mise en connexion qui est, je trouve, passionnante et où je ne pourrais pas le faire si j'avais pas des outils poussés et si j'avais pas quoi. La valeur se crée pas effectivement peut-être par du manuel dans un métier comme la médecine ou enseigner, mais finalement ceux qui créent l'innovation ou les inventions, c'est des hommes derrière et la valeur qui leur est reconnue est tout aussi noble, même si elle s'est décalée parfois pour certains métiers d'un métier très manuel à d'autres connaissances et donne la possibilité, voilà, je rebondis sur les agriculteurs, mais cet asservissement qu'ils ont moins par rapport à un travail qui était très physique et très prenant, d'être remplacé en partie par des machines, laisse aussi le champ à du temps pour d'autres choses. Et quoi, bon,
moi, dans l'agriculture, c'est...
Donc ouais. Voilà, je vois un peu, on n'est pas que dans l'intensif, il y a quand même des mentalités qui changent aussi, même si ce n'est pas généralisé en France et loin de là. Mais j'ai le sentiment qu'il y a du temps qui s'est dégagé même pour les familles, plein d'autres choses du domaine du social ou de la culture qui font qu'ils n'ont pas plus que ça et qu'il y a plein d'autres interrogations qui naissent aussi de ce temps qui est libéré et plus consacré à juste avoir un travail qui physiquement est rentant et où on ne peut rien faire à côté et à la fin on en meurt aussi quelque part. Donc, je dirais que l'un était extrême. Non, mais
de toute façon, oui, tout à fait. Mais mon propos sur les nouvelles technologies n'est pas critique du tout, parce que moi-même, je les utilise. Je vous ai parlé, par exemple, les transplantations pulmonaires. Je trouve ça formidable hein, pour beaucoup Bon, il y a des échecs, forcément, mais
La microchirurgie à distance,
c'est...
par
Oui,
exemple,
non,
c'est un truc
mais
de fou.
voilà,
On
non,
peut
mais les nouvelles
aller
technologies, faut
de
pas. C'est pour ça
patients
que
de
j'ai.
Chine à New
On peut
York,
diaboliser,
quoi.
mais c'est pas
Technophile,
faux.
c'est pour ça que j'ai dit technophile, technophobe. Donc,
Mmh.
bon, c'est entre les deux. Puis, de toute façon, on les a, ces nouvelles technologies. On ne va pas revenir à la bougie. C'est évident. Hein. Donc, mon propos, la médecine technoscientifique, moi, je ne la critique pas du tout. Au contraire, je suis très médecin. Vraiment, je ne suis pas du tout pour des médecines un peu. Alors, par contre, ce que je mets en pratique, moi, pour ma part, c'est justement ce temps d'écoute, hein, qui est... Je vous avais apporté deux petits exemples, si vous voulez, je peux les reprendre pour vous montrer. Donc, parce que avant d'avoir. Enfin. Si vous voulez, mon travail de recherche depuis les années début 90, c'est donc essentiellement consacré à la prise en compte de l'écoute, de la. Alors vous allez me dire, c'est très banal, oui, mais voilà, mais en même temps, bon, ça l'est pas du tout, puisque ça évolue dans un sens, dans le sens inverse. Donc, mon travail à l'origine, l'originalité, c'était justement de prendre le temps à l'occasion de cette consultation où je reçois des patients qui viennent pour quelque chose de très technique, hein, pour faire une exploration respiratoire, donc que je continue de pratiquer, enfin pratiquer avec du personnel, etc., hein, pas toute seule. Donc, un environnement très technique que j'apprécie aussi, et de permettre dans ce temps où ils viennent. De les écouter, donc de les laisser dire. Et donc ce travail s'appelle l'instant de dire. Donc j'ai sorti un bouquin qui s'appelle comme ça, qui est épuisé d'ailleurs. Et après j'en ai sorti un deuxième qui s'appelle La douleur du malade. Donc voilà, bon, c'est ma manière à moi de résister. Et vous dire aussi, à partir de ce que j'ai. Ce que je pratique là, et je le pratique pas seulement pour moi, hein, puisque donc, comme je vous ai dit, je dirige des recherches. Quand les étudiants passent par mon service, donc les étudiants en médecine, je leur parle de cette nécessité, hein, de prendre en compte le malade, hein, pas que la maladie, hein, selon la formulation de Canguilhem. Aussi, donc, je fais des supervisions en soins palliatifs. Donc, bon, voilà. Donc, pour moi, c'est ma manière d'être un petit peu décalée par rapport à tout ce que nous impose ce système technicien, comme dit Ellul, ou cette médecine technoscientifique et toutes ces technologies qui sont formidables, je le conçois, hein. Qui sont formidables, mais en même temps qui ont des travers dont on n'a pas mesuré, je pense, là maintenant, du point de vue écologique, il y a une vraie prise de conscience de tout le monde, je crois, même si personne, si pas grand monde l'amène jusqu'au bout. Hein. Moi, je ne suis pas spécialement écologiste, pas du tout même, mais je crois qu'il y a maintenant une prise de conscience véritable de ce qu'on a pu. Produire comme catastrophe avec toutes ces technologies, quand même. Hein. C'est quand même ce monde moderne qui a produit toute cette pollution catastrophique. Hein. Donc, les technologies, c'est très bien, mais il faut bien prendre conscience maintenant que, eh bien, il y a à effectivement se demander déjà, d'ores et déjà, comment on va faire. Et après, ce qu'on va faire, je comprends ce que vous dites, hein. Bon, c'est bien joli de critiquer, d'analyser, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je vous l'ai dit, bon, ben, c'est vrai que je dis nous, donc, puisque avec Roland, on a publié des bouquins, hein, notamment de La santé totalitaire exilée de l'intime. Là, il en a proposé un autre. Il en a sorti un autre, de quoi la psychanalyse est-elle le nom? C'est vrai que pour nous, la psychanalyse, qui vous le dira mieux que moi, qui a péché par beaucoup d'aspects, il n'empêche qu'actuellement, c'est une manière de préserver l'humain, hein, de cette référence à la psychanalyse. C'est pour ça qu'elle est aussi maltraitée actuellement, parce que justement, elle est. On sait bien que actuellement, ce qu'elle promeut, ce qu'elle défend, eh bien, ça va à l'encontre de ce vers quoi on veut nous mener. Hein. Donc déjà, bon, bah, avec ce type de référentiel qu'on a, par exemple, à l'université, on s'est beaucoup battu pour essayer de faire que la psychanalyse reste une référence importante, hein, puisqu'elle est pas mal combattue par les nouvelles technologies aussi, hein, type thérapie cognitivo-comportementale. Non pas que je sois spécialement contre, après tout, pourquoi pas, hein, aller voir un comportementaliste. Mais le problème, c'est que ça va contre une certaine conception de l'humain, hein, c'est-à-dire dans ce comportementalisme, faire en sorte d'adapter l'homme à son environnement, hein, plutôt que d'arriver à prendre conscience de ce qu'il en est, bon, si on emploie des gros mots, de son désir, de ce vers quoi on veut aller, etc. Et puis aussi d'être attentif à l'humain dans son intimité, dans son, enfin bon, tout ce que nous connaissons bah, avec le comportementalisme et une certaine idée de la psychiatrie avec le développement des psychotropes, c'est quand même ramener les souffrances des patients à des troubles du comportement qu'on va traiter par des psychotropes. Et donc plus, même dans le domaine de la psychiatrie, voilà, comme des rats de laboratoire, même dans la psychiatrie, eh bien, on va plus écouter le patient, hein, ça sert à rien, on lui renouvelle ses médicaments, et puis voilà. Donc, alors après, de créer des formes, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est effectivement de créer des nouvelles solidarités, mais elles sont très difficiles à créer de nos jours parce que il y a. Vous dites qu'on a plus de temps. Je ne sais pas si on a plus de temps. Moi, je dirais, vous êtes jeune. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte par rapport aux générations d'avant. Mais moi, je trouve qu'on a de moins en moins de temps. Je ne sais pas ce que vous pensez pour vous qui êtes. Comment? Ben oui, mais plus de choses. Souvent pas intéressantes du tout.
Non, ou ça ramène à la servitude volontaire, où on fait des choses pas parce qu'on veut les faire, mais parce que.
Quand on est obligé, on a son ordinateur le week-end à la maison et qu'on bosse, c'est une catastrophe.
Ouais, et en même temps, on s'expose à une exclusion si on ne le fait pas, et dans ce cas-là,
Ah, bah oui,
dans
non,
le
bah ça c'est
pire.
sûr. La prolétarisation de tout un chacun, ça va dans ce sens-là. Hein. S'il n'y a plus que des prolétaires, c'est très bien. C'est toute une armée qui est prête à servir ce que l'on veut.
Mais moi, j'ai quand même le sentiment que bon, c'est vrai que la psychanalyse a assez mauvaise presse de plus en plus, mais qu'on s'orienterait, je ne sais pas, avec des livres comme celui de David Servan-Schreiber ou Mathieu Ricard vers des courants de dire bah, pourquoi pas aller vers quelque chose de plus sain, la méditation, et qui n'est pas du tout là, qui n'est pas du tout dans le courant de la psychanalyse, qui est une introspection, etc., mais plutôt quelque chose de très empathique et en même temps où les gens se retrouvent et se recentrent sur eux-mêmes, mais toujours en lien. Et moi, j'ai l'impression que justement ce type de personnes, alors issues de courants, mais sans en faire non plus la propagande, peut-être plus du bouddhisme ou du croisement de différentes et sciences. Et, oui,
ça a marché aussi, hein. Je veux dire, c'est un
la
sacré
mode,
marché.
mais.
Ça a un sacré marché. Je veux dire, c'est tout le bien-être, c'est tout ce truc-là.
Exactement, mais.
Moi, ça a marché, quoi. L'édition autour de ça,
Alors.
tu as les produits tisanes, machin autour de
Non, je
ça.
suis d'accord,
C'est tout
mais qui est toujours un marché autour de quelque chose, quoi. Je veux dire, quand on voit le prix d'une séance de
Hein?
psychanalyse, c'est
Les
aussi
codes
très
sociaux.
cher, mais.
Après, il y a aussi le public.
Il y a les CMP. Voilà. Alors, attendez, justement, je voudrais dire aussi, là aussi, peut-être qu'il ne faut pas être trop...
Non, mais
je suis d'accord avec vous, en plus. Je vais aller dans votre sens, parce que, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est... les gens ont besoin de spiritualité. Hein. Donc, mais pourquoi? Mais à cause de tout ce qu'on vient de dire. Donc, ils vont se diriger... Bon, la psychanalyse, ce n'est pas une religion, hein, a priori.
Oui, non, non, ça
je... Comment?
C'est tout à fait différent.
Oui, oui.
Non, mais attendez. Non, mais on a besoin d'autre chose. Du fait de ces technologies.
Le monde final peut se rapprocher par différentes voies. On peut passer pour un même but final.
C'est-à-dire qu'on peut aller effectivement consommer du bien-être via des spiritualités, tout ce que tu veux, moi je... Mais y a pas, je veux dire, c'est pas forcément parce qu'il y a une souffrance. Je veux dire qu'on fait pas une psychanalyse, une psychothérapie toujours par luxe ou par plaisir. C'est parce qu'il y a parce qu'à la base c'est qu'il y a une réelle souffrance et que la vie est. Enfin, je veux dire que voilà.
Je pense que la souffrance de quelqu'un qui recherche du bien-être aussi est peut-être pas une forme
de
spiritualité.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui ne veut pas du bien-être?
Je veux dire.
Je n'opposerais pas de manière radicale, vous voyez, parce que ce besoin de spiritualité, ouais, comme le besoin d'éthique.
C'est lié au temps. De ce dont tu parles, c'est beaucoup lié au temps aussi. Il faut avoir du temps.
Ah oui, non, mais je critique alors, pas.
C'est vachement bien.
C'est déjà une démarche très positive. Voilà. La psychanalyse curative, c'est quand on n'est pas bien et donc
c'est
on n'a même pas
ce voilà, c'est ça.
Bien
voilà.
On veut,
c'est vital, quoi.
Je crois que je répète, c'est le reste, comme l'éthique. L'éthique, ça peut être n'importe quoi, l'éthique. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément le niveau qu'on espère dans toutes ces démarches éthiques. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on met de l'éthique quelque part que c'est forcément un plus. Voilà, tout est éthique, donc rien ne l'est. Donc la spiritualité, etc., toutes ces démarches sont liées au fait, justement, que les individus vont chercher autre chose pour un peu éponger cette société de consommation qui nous oblige à consommer du temps aussi, hein, comme on l'a dit. Bon, on a plus le temps de faire des choses, mais quoi? D'aller au supermarché, d'aller, etc., etc. Donc, est-ce que... Alors après, on peut peut-être dire, bon, la psychanalyse, c'est une chose, le bouddhisme, c'en est une autre, etc., l'éthique. Mais je pense que tout ça vient un petit peu en contrepoint de cette évolution très technologique et aussi de société de consommation, qui fait qu'on se dit à un moment donné, pour certains, stop. Donc, chacun d'entre nous va faire des choix et aller vers ces spiritualités, comme vous disiez. Donc, voilà. Et on peut très bien aller vers ces formes de spiritualité, aller faire une analyse aussi en même temps, etc., etc. Donc, voilà. Je serais, moi, plus tolérante, vous voyez, sur... C'est un peu comme la laïcité, le débat sur la laïcité, où il y aurait des hiérarchies, etc.
Ça n'a rien à voir, ça veut dire que c'est...
Ah, ben, il y a du business partout,
On va déjà bien un peu dans sa tête, etc., etc. Tu vois, on est ouvert à des choses qui font encore plus de bien. Mais ce dont on parle ici, on est dans le soin, déjà la maladie et le machin, tu vois. Donc, quand tu es à l'hôpital ou je sais pas où, tu es en souffrance, voilà quoi, c'est un autre univers quoi. Moi j'aime l'autre fois je vous regardais une émission où ça se passe en Chine, et le rapport du médecin au malade, enfin par rapport à ses concitoyens n'a rien à voir. C'est un médecin, il s'est soigné, hein, etc. bien sûr, avec d'autres méthodes que nous, peut-être voilà, plus naturelles on va dire, mais eux ils font ça depuis plein de temps quoi. Mais par contre, les gens vont le consulter quand ils vont bien. C'est-à-dire que la famille entièrement va voir ce médecin. Il y a une consultation parce qu'on va bien. Et l'autre regarde, on discute justement, on parle comment on mange, comment on dort, etc. En amont, avant d'aller mal. Et il leur conseille en amont de faire des choses pour ne pas être malade. Donc c'est complètement un petit peu le système inverse. Voilà, donc ici on va voir un médecin quand on est malade, qui n'a plus le temps de s'occuper de nous parce que le système il est comme ça. Donc tout à l'heure je parlais de prévention, c'est-à-dire qu'il y a toute une part de prévention et ça on n'en parle pas assez quoi. Peut-être c'est moi qui suis sourde. Elle n'est plus de ce qu'elle était par rapport à une volonté qui était politique à un moment donné, que ce soit de la maternelle jusqu'au terminal. Ça, moi, je ne sais pas, de mon époque, je suis un peu vieille. Au collège, on avait des consultations quoi, en classe. Tout le monde y passait la visite médicale. Et c'était très poussé comme visite médicale. Ce n'était pas simplement mesuré, etc., etc., pesé. Et moi, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas, ils ne m'en parlent pas s'ils ont des visites médicales ou pas. Enfin, ça ne va pas.
Les médecins scolaires, il y en a de moins en moins.
Voilà.
Hein.
Donc ça
déjà, c'est vite réglé.
Dans mon temps, il y avait la planning familiale, on parlait contraception, etc. Donc, ils sont en train de. Voilà, il y a plein de choses qui sont encore du domaine du croyant chez les ados aujourd'hui par rapport à la sexualité, quoi. On dit, mais ce n'est pas vrai, on est revenu en arrière. Donc ça c'est de la prévention, moi, et peut-être que ça il faut être très exigeant et c'est de la responsabilité de la collectivité, c'est-à-dire de l'État, de que cette prévention elle soit mise en place avant que, voilà, un petit peu à la chinoise, quoi, on parle des choses quand ça va bien.
Sauf que chez nous maintenant, enfin bon ça c'est Roland Gori qui vous en parlera mieux que moi, c'est qu'on fait du repérage des populations. Ah, vous savez, le passe zéro de conduite, vous avez entendu parler de la pétition passe zéro de conduite pour les enfants de 3 ans, c'est repérer les populations, et donc forcément, c'est les enfants...
De la maternelle.
Les enfants qu'on peut repérer comme susceptibles d'être délinquants. Et comme par hasard, on les repère où ? Dans les familles... socialement donc démunis, etc. Et donc forcément c'est une stigmatisation des enfants, et donc on a ce problème là, c'est que et avec le DSM, vous le savez, vous savez parce que c'est le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dont se servent les psychiatres, mais les travailleurs sociaux, donc les psychiatres nouvelle manière, c'est-à-dire ceux qui utilisent essentiellement des psychotropes ou qui font des thérapies cognitives ou comportementales, enfin surtout des psychotropes, parce que la psychiatrie est essentiellement biologique. Enfin, en tous les cas, on les forme comme ça, les psychiatres. On les forme pas aux psychothérapies, hein, avec le nouveau texte de loi sur la réglementation des psychothérapies. Ce sont les psychiatres qui sont considérés comme étant les mieux formés. Ils ont besoin de rien prouver de quoi que ce soit, alors qu'ils n'ont aucune formation psychothérapeutique dans leur cursus, je peux vous le certifier. Et donc, dans ces DSM, qui a vu le jour en 1952, au moment où les premiers psychotropes sont arrivés, le premier c'était le Largactyl, il fallait arriver à créer, enfin avoir des groupes de patients, des populations de patients avec des diagnostics assez fiables, hein, donc des déprimés, des schizophrènes, des que sais-je encore. Et comment on fait pour établir un diagnostic de schizophrénie, de dépression, etc. C'est pas évident. On fait pas un diagnostic de dépression, de schizophrénie, comme on fait un diagnostic d'asthme, de cancer, c'est pas du tout pareil. Alors, ils ont réglé le problème. Bon, dans les premiers DSM, c'était pas aussi caricatural. Mais dans le troisième DSM, on a appris en quelque sorte aux professionnels à faire un diagnostic de dépression. Donc forcément, on arrive à un consensus quand on leur dit pour être déprimé, ben vous êtes déprimé si vous êtes insomniaque, si vous n'arrivez pas à dormir, si ceci, si cela, si vous avez des idées suicidaires, que sais-je encore. Donc il y a des listes comme ça, forcément, on va mettre tout le monde d'accord et on va faire des diagnostics de dépression, d'autres diagnostics. Donc il fallait des populations pour tester les médicaments. Et après, c'est devenu vraiment un manuel de diagnostic. Et donc, ce manuel de diagnostic, là où je voulais en venir, c'est que d'une centaine de troubles, il est passé au DSM-4 des années 90, a plus de 400 troubles, et celui qui va sortir prochainement, en 2012 ou 2013, il y en a encore plus. Donc on repère, on fait un repérage par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que c'est la prévention, il faut voir ce que c'est la prévention. Si c'est d'aller discuter avec son médecin tranquillement, alors comment ça va, etc., puis ça y est, on est dans une relation de confiance, etc., on va parler de ses petits bobos, ses petits soucis, etc., et puis on ressort de là, on va mieux, on est un peu avec quelques bons conseils, etc., là, parfait. Mais si c'est de repérer des populations et de les faire entrer dans des cases où on va en plus les traiter, hein, forcément, parce que derrière chaque trouble, il y a des molécules. Hein. Donc là, c'est vraiment problématique. Hein. Donc la prévention aussi, on est dans un point où ça se discute. Parce que vous, la prévention, ce que vous voulez dire par prévention, c'est effectivement... se soucier finalement de l'autre, avoir.
Je ne sais pas quand, par exemple, moi, dans le type de prévention, je dis, bon, effectivement, c'est qu'à partir de 50 ans que les femmes reçoivent un papier comme quoi ils ont droit à une mammographie gratuite, etc. Bon, pour moi, ça, c'est de la prévention. Mais à chaque âge, il y a de la prévention de ce type-là. On regarde avant que les choses, on sait qu'effectivement on a plus de risques à un certain âge d'avoir ce type de maladie, etc., ou d'avoir un cancer. Donc à tout âge, il peut y avoir des choses comme ça. Chez les enfants, c'est la croissance, on est très attentif à la croissance, par exemple, à l'ouïe, à la vue, parce que c'est vrai que ça pose des problèmes. Au niveau des apprentissages, si on ne voit pas bien, si on n'entend pas bien, etc. Bon, c'est des choses de ce type-là, dont il est question dans ce que je dis. En même temps, effectivement, quand on aborde l'adolescence, la sexualité, les problèmes, etc., de ne pas être, comme j'ai entendu, les ados, quoi, être complètement dans le fantasme par rapport à la sexualité, quoi. Mais je dis, mais c'est pas vrai, ça c'est 50 ans, on parlait comme ça, quoi. Il y a eu une espèce de blanc. Mmh. Il y a une espèce de blanc par rapport à des choses qui nous paraissaient acquises à l'époque.
Pourtant, des travaux sur l'adolescence, il n'en manque pas. Hein. Il y en a beaucoup,
c'est vrai. Non, mais les travaux sur l'adolescence, c'est une chose, mais qu'on travaille avec eux, c'est autre chose.
Mais je pense que ça se fait, quand on s'est tellement habitué à la normalité de la prévention et quelque part d'être un peu rythmé par on a un cahier de vaccination, on reçoit tout, par de toute façon, on sera tout le temps averti. Que finalement, alors qu'à une époque c'était nouveau, que c'était plein d'espoir, nous on a juste appris à le subir, mais sans forcément nous être à l'écoute. On se dit de toute façon, soit il y a quelque chose, on ira chez le médecin, soit toute la scolarité, s'il y a besoin qu'on se fasse vacciner, on nous le redira. Donc finalement, il n'y a plus d'échange, il y a une sorte de. Voilà, c'est ça.
Oui, parce que c'était quelque chose d'établi, voilà, c'était. Ça faisait de l'ordre, comment te dire. Voilà, c'était un choix politique, que la population soit vaccinée, soit suivie, etc. Il y a une maladie que tu as dit tout à l'heure parmi d'autres, c'est la tuberculose. C'est quand même une maladie pauvre, ça. Il y a une espèce de recrutement. Enfin, au début, il y a de ça, il y a, on va dire, 15 ans, on va dire, bon, je n'arrive pas à le dater, il y a environ 95, ça fait combien d'années?
15 ans, oui.
Oui, c'est ça, bon. Donc, il y a eu un début. Je peux le dire parce que moi, je l'ai chopé. Enfin, je crois l'avoir chopé. Enfin, dans tous les cas, j'ai la trithyrambe rapide. Bon, ça s'attrapait n'importe où, hein, dans le métro. C'est le début des personnes SDF, etc., qui ne soignent pas, donc pas suivies, etc. Et puis, ça traîne, quoi. Voilà. Donc, on pouvait le choper, mais on disait, il ne faut pas en parler. C'était tabou de dire qu'il y avait la tuberculose qui revenait. Mais c'était quand même dingue, quoi. Ils nous ont cassé les pieds pour nous dire, là, dernièrement, à Chinénénin, il fallait se laver les mains. Mais ben, il y a 15 ans, déjà, il fallait se laver les mains vite fait en rentrant, quoi. Donc, il y a une espèce de... Par rapport à la santé des pieds, quoi, bon, vous avez un peu maladie honteuse. Vous vous rendez compte, la tuberculose en France, c'est grave, quoi. On croyait que c'était fini. Donc, maintenant...
Et d'autant qu'on sait que les vaccins ne sont pas efficaces. On a vacciné, on a fait le BCG pendant des années et des années. En fait, on sait que ça ne sert pas. Ça n'a pas d'effet. Mais ça, on ne le dit pas trop, ça. On ne le dit pas.
C'est des gens qui ne sont pas soignés. Je veux dire qu'à un moment donné, si quelqu'un est malade et qui est dans la rue, Voilà, quoi, c'est, ça veut dire...
Mais enfin, dans les milieux, ça se dit pas mal, hein, que la tuberculose, dans le milieu, ça, on le sait qu'il y a... Et on le recherche systématiquement, la tuberculose, oui, quels que soient les milieux.
Moi, je te parle, il y a 15 ans.
Oui, non, mais je sais, oui, oui. Non, mais la tuberculose n'a jamais disparu, hein, c'est, ça, c'est sûr et certain, hein. C'est sûr et certain. Et de toute façon, avec l'exclusion qui s'accroît, la pauvreté, forcément.
Moi, ce qui m'a pas mal parlé dans votre exposé, alors j'ai travaillé longtemps dans le social, et principalement dans la protection de l'enfance, et c'est qu'on est beaucoup aujourd'hui, pour des raisons, je pense, économiques, dans un discours de responsabilisation des gens, y compris des enfants. Il faut mériter son placement, par exemple, ce qui paraît quand même totalement...
Ah oui, on dit ça. Oh là là.
Mais c'est quelque chose qui est vraiment présent dans le discours. Et c'est assez terrible qu'on en a... Par exemple, la protection de l'enfance, c'était quelque chose pendant longtemps, en tout cas dans le discours, après il y avait des phénomènes inconscients et tout ça, qui était quelque chose d'acquise, comme les enfants n'ont peut-être pas les capacités.
Bah oui.
Et on en revient complètement à un autre discours.
Ben oui, on s'est saisi, par exemple, de l'autonomie que promeut, par exemple, depuis Kant, hein, la question de l'autonomie, ce dont je n'ai pas parlé, bon, enfin, j'aurais peut-être tellement de choses à dire, mais par exemple, la question du consentement, vous savez, avec les lois Kouchner de 2002, mais c'est terrible, les patients, justement, pour vous donner des petits exemples, c'est vrai que cette mucoviscidose, en ce moment, elle me bouleverse pas mal, et je vois des jeunes, vraiment... Et une jeune femme de 25 ans qui a été greffée, qui a eu une greffe il y a 3-4 ans. Et là, elle va très mal de nouveau. Et donc, on lui dit qu'on la reliste pour une greffe pulmonaire. Donc, elle est relistée. Alors, elle voit une psychologue qui lui fait faire le parcours pour se remettre dans la tête, etc. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, on lui dit... Ah non, mais finalement, si vous avez la greffe, si vous faites la greffe, vous avez toutes les chances de mourir, quoi. Donc, vraiment, c'est très risqué. Donc, on la déliste, on l'enlève, on la met plus dans la liste. Ils sont listés, donc. Et puis, in fine, comme elle va de plus en plus mal, vous imaginez, 24 ans, hein, elle a. Et on lui redit, bon, écoutez, vous choisissez, c'est à vous de choisir. Et elle me dit, mais comment je fais pour choisir? Moi, je vais choisir. Enfin, elle le dit en plus très... Les patients atteints de mucoviscidose, ils sont extraordinaires parce qu'ils ne sont pas du tout ils sont pas dans la souffrance qu'on pourrait imaginer de quelqu'un qui... Enfin, il y a la question de l'événement. Je voulais vous parler de l'événement aussi, mais je n'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout le temps vécu avec la mucoviscidose. Donc, ça ne fait pas événement pour eux, cette mucoviscidose. Ça ne fait pas vraiment événement. Donc, ils sont comme ça. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette question du consentement et de l'autonomie, donc, on a gagné. On peut se dire, ah, c'est formidable. Le patient, il décide. J'ai mon corps à moi. C'est moi qui décide ça. Mais c'est... On les met, comme là aussi, c'est un truc, quelque chose qu'on a travaillé avec Roland Gori, on les met dans une position de nourrisson savant. Hein, c'est ça qui m'a fait penser. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous êtes vulnérable. Hein, donc, cette jeune femme dont je vous dis, elle est formidable, mais il n'empêche qu'elle est quand même, elle est en danger de mort. Et on lui dit, mais c'est à vous de décider. Moi, je ne décide pas en tant que médecin, c'est à vous de décider. Mais c'est d'une cruauté, mais abominable. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Moi, en tant que médecin, je ne peux pas dire à un patient, c'est vous qui allez décider. Sauf si quand le patient ce matin, un autre patient ce matin, justement, me dit qu'il a un problème de tassement vertébral assez grave, etc. Et puis on lui dit, on va vous faire une intervention, on va vous enlever la vertèbre, vous remettre je ne sais pas quoi, etc. Enfin, un truc très compliqué. Alors il finit par dire au chirurgien qui propose ça. Mais vous avez l'expérience de cette intervention? Alors l'autre lui dit, ça fait 3 mois que je fais ce type d'intervention. Donc, il me dit, en gros, il me fait comprendre. Je dis, oui, non, mais il vaut mieux attendre. Hein. Là, par contre, je vais vraiment le... Non, mais vous voyez un petit peu ce que c'est la médecine quand même. Vous voyez, c'est... Alors c'est formidable quand je vois des jeunes de 20 ans, 30 ans avec... greffés, qui revivent, qui travaillent, qui ont des gamins, qui ont, c'est formidable. Mais après, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça.
C'est marrant parce qu'on peut mettre en lien avec plein de thèmes dont vous avez parlé. Au début, la monétarisation des actes médicaux, où chaque, je sais plus, on est soigné, on doit payer pour recevoir un soin. Cette autonomie et tout ça, et le patient qui est face à ses choix, et la technomédecine, où maintenant, pour une maladie, on peut avoir une pathologie, on peut avoir plusieurs choix, parce qu'il y a plusieurs techniques et technologies qui sont développées. Et moi, j'ai une histoire très personnelle d'une personne qui a été atteinte d'un cancer et qui avait le choix, qui était père de famille, donc qui devait choisir lui-même, qui devait porter sa famille parce que ses enfants et sa femme n'étaient pas particulièrement aptes à décider. Ouais. Qui a toujours porté la figure du père et qui a été face à trois choix de techniques différentes, face à trois des prix très différents. Et donc, avec vraiment, c'est terrible quoi, de se retrouver en tant que père de famille, donc vraiment avec cette difficulté de pouvoir partager et de ne pas vouloir faire redescendre la figure du père qui peut souffrir, qui peut avoir des souffrances mentales assez importantes, de se voir face à la mort, même si c'est une maladie qui a été très bien soignée et tout ça, mais ça relie vachement le thème que vous avez,
vous avez
abordé. Et, surtout ce choix en fait de toutes les techniques qu'il y a, plusieurs technologies et dont on ne sait pas grand chose, il n'y a pas de connaissances, de prévention, de
oui, pas simple. Bon, si ça fait écho, c'est bien, c'est pas pour vous.
De chacun qu'on revendique et en même temps là qui devient complètement absurde.
Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'a dit, ce que vous avez dit, ces enfants, de leur dire, allez, prends-toi en main, etc. C'est dur, en plus c'est des enfants, j'imagine, qui sont en grande difficulté, en plus, c'est pas un gamin qui est entouré, qui a plein de capacités diverses et variées, plein de richesses, là c'est des gamins qui, j'imagine, ont eu un vécu hyper difficile, et en plus on lui dit, allez, non, on devrait les aider.
Bon, merci beaucoup.
Ouais, écoutez. Okay.